À l'ordre du jour ce soir, peut-on survivre en politique sans être un ou une politique ? Benoît Payan est donc depuis ce matin maire de Marseille et Michèle Rubirola sa première adjointe. La médecin écologiste a démissionné pour raison de santé, mais aussi, a-t-elle dit, parce que Marseille a aujourd'hui davantage besoin de l'énergie et de l'expérience de Benoît Payan que de la nouveauté qu'elle-même incarne. La nouveauté, la politique autrement, le renouvellement, c'était la promesse du printemps marseillais, mais aussi beaucoup celle de 2017, avec un nombre inédit d'élus novices, depuis rebaptisés pour certains députés fantômes. À l'échelon local, national, européen, mais aussi parfois dans les ministères, l'envie, les convictions, les idéaux peuvent se heurter à la dure réalité d'une vie politique pleine de codes et d'exigences. La machine peut broyer, dégoûter ou plus simplement décevoir, avec le risque aussi d'éloigner celles et ceux qui, dans la société, placent en ces promesses de changement leurs derniers espoirs. La politique est-elle forcément réservée aux professionnels de la politique ? Avec nous ce soir, Édouard Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien délégué CFDT d'ArcelorMittal à Florange, élu député européen en 2014. Aujourd'hui président de l'association Bridge, comme bâtir le renouveau industriel sur la démocratie et le génie écologique. Avec nous également Dominique Régnier, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, candidat au régional de 2015 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, c'est désormais la région Occitanie. Et enfin, bonsoir Étienne Ollion.
Bonsoir.
Chercheur CNRS, professeur associé à l'École Polytechnique, vous avez coécrit le livre « Métier député, enquête sur la professionnalisation de la politique en France » publié en 2017 aux éditions Raison d'agir.
Faire de la politique, c'est d'essayer de combiner des injonctions contradictoires, et c'est de se plonger dans la complexité, et c'est de faire société. Donc, bien entendu, ça ne doit pas être réservé simplement à une élite, mais la démonstration, en tout cas peut-être que le message qu'il faut faire passer, c'est que quand on prend les choses avec cœur, faire de la politique, ça prend aux tripes.
C'est dur.
Voilà, c'est très dur. C'est très dur parce que forcément, c'est de prendre la moins mauvaise décision et d'essayer, encore une fois, de combiner des intérêts parfois contradictoires. Et l'écologie en est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que si on doit privilégier le court terme, il y a des décisions qui s'imposent. Privilégier le long terme, il y a d'autres décisions qui s'imposent. Mais en tout cas, si on le fait avec du cœur, oui, ça abîme de faire de la politique.
C'était Nicolas Hulot sur France Info la semaine dernière après l'annonce de la démission de Michèle Rubirola. Édouard Martin, vous avez donc été député européen entre 2014 et 2019. Vous êtes entré en politique sous l'étiquette PS, puis Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Ça vous a abîmé de faire de la politique ?
Écoutez, on va dire que j'étais déjà un peu abîmé par le passé, par mes mandats syndicaux, parce que ça aussi, ça abîme quand on fait les choses avec cœur. Et avec passion, forcément, vous prenez sur vous et vous ne pouvez pas rester insensible, mais vous bâtissez une carapace. Alors je dirais que le mandat de député européen ne m'a pas mis abîmé plus que ça. Il n'a fait que malheureusement me conforter dans l'idée que je me faisais du politique, en tout cas du professionnel de la politique. C'est que le titre de votre émission, peut-on survivre en politique quand on n'est pas un politique, j'ai presque envie de dire, peut-on survivre lorsqu'on n'est pas un professionnel de la politique ? Et je ne suis pas un professionnel de la politique. D'ailleurs, j'ai toujours regretté d'ailleurs cette professionnalisation de la politique. C'est comme ça que les partis se sont accaparés effectivement l'ensemble des mandats, pour ne pas dire tous les mandats électifs. Alors, à moins d'être un petit maire, enfin petit, c'est pas péjoratif, un maire d'un petit village, là effectivement l'étiquette a pas beaucoup d'importance, mais au-delà, si vous n'êtes pas dans un parti politique, vous pouvez survivre, mais vous pouvez survivre un temps, mais vous ne pouvez pas vivre dans le temps, ça c'est clair.
Vous aviez décidé dès le départ de ne faire qu'un mandat, je le précise, mais vous auriez pu changer d'avis, on en reparlera ensuite. Dominique Régnier, vous étiez donc en 2015 tête de liste LR, UDI, Modem, chasse, pêche, nature et tradition pour les régionales. C'est Carole Delga qui a obtenu la majorité en Occitanie, mais vous êtes devenu président du groupe d'opposition jusqu'à ce qu'un membre de votre groupe fasse invalider votre élection pour des questions de domiciliation. Quel regard portez-vous sur cette expérience et sur ce qu'elle vous a apporté à vous qui observez travailler la vie politique ?
Il y a bien sûr mille choses à dire parce que c'était une expérience extrêmement forte. Moi, j'étais candidat à des primaire en 2014, qui était ouverte à la société civile. J'étais pas membre d'un parti. Mmh. J'ai gagné ces primaires. Donc j'ai été investi dans le prolongement des primaires. Mais ça n'a, mais au fond, ma victoire n'a pas été acceptée par l'appareil ou les appareils. Et donc j'ai ensuite mené une espèce de lutte incessante contre ceux qui avaient finalement décidé de m'investir. Moi, je voudrais partager ça avec les auditeurs. Il y a plein d'aspects extraordinairement passionnants, exaltants et très très positifs. Hein. Il y a aussi des aspects terriblement négatifs et qui sont en particulier qui touchent aux questions d'argent. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne sait pas, qu'on devine, mais qu'on ne sait pas assez. Moi, je n'ai pas eu de soutien. Ça peut paraître curieux, hein, mais je n'ai eu le soutien d'aucun parti politique. Je n'ai même pas eu la caution des partis politiques pour les prêts que j'ai engagés, que j'ai dû engager pour financer la campagne.
Pourquoi vous ne l'aviez pas eu ?
Je ne l'ai pas eu parce qu'on n'était pas d'accord sur la composition des listes et que je ne voulais pas céder sur ce sujet-là. J'ai peut-être eu tort, mais enfin, j'ai pas voulu. Et du coup, on a fait jouer la pression sur la caution. Je ne pouvais obtenir qu'en étant d'accord sur les listes, ce qui n'a pas été possible. Mmh. Et donc, je voudrais juste partager que moi, j'ai dû hypothéquer ma maison. Pour que le banquier puisse me faire des prêts. C'est une région, vous l'avez dit, hein, c'est la fusion du Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Ça fait la taille de l'Autriche. Il y a 13 départements, c'est une grande région. Donc moi, j'avais dépensé 750 000 euros pour faire campagne. Le plafond était très supérieur, donc j'étais quand même en dessous. Mais j'ai eu des dons, des citoyens m'ont donné de l'argent. J'ai fait aussi contribuer des candidats, mais j'ai dû emprunter au-delà de ce que je pouvais faire, et on m'a demandé de cautionner mes biens, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si mes comptes avaient été invalidés, je perdais tout. Donc c'est complètement déraisonnable. Et les partis ne jouent absolument pas le jeu du renouvellement, non pas que j'étais des nouvelles générations, mais j'étais nouveau en politique. Ils ont plutôt hâte que vous repartiez, et si possible dans des conditions assez dures, pour ne plus y revenir et pour faire savoir un peu à tout le monde que ça n'est pas comme ça, qu'il faut passer par les partis eux-mêmes et non pas essayer de court-circuiter.
On va parler évidemment du rôle des partis. Alors on ne sait pas donc si la politique vous a abîmé, en tout cas elle aurait pu sérieusement vous appauvrir. Étienne Ollion, vous travaillez donc sur les novices en politique, et peut-être que c'est important, avant d'aller plus loin, de s'entendre sur ce que l'on appelle novice ou venu de la société civile, car c'est aussi devenu un élément de communication. Or ça ne recouvre pas toujours vraiment la même chose.
Oui, en effet, on se souvient, et vous l'avez rappelé dans votre introduction, que en 2017, Emmanuel Macron a fait campagne contre les professionnels de la politique, lui aussi, après d'autres, avec grand succès, mais il l'a aussi fait pour le renouvellement et via ce qu'il appelait à l'époque la société civile. Et sur les listes, en fait, que En Marche a mise, La République En Marche avait mise en avant, il y avait environ 50% de personnes qui avaient trait ou qui relevaient de cette société civile. Alors, dans le terme société civile, en fait, comme dans tous les concepts un peu flous, une part de réalité, une part de mythe. La part de réalité, c'est qu'en effet, ça renvoie bien à une expérience différente de gens qui viennent hors du champ politique, qui ont moins d'expérience, normalement. Normalement, parce qu'en fait, dans ce qu'avait mis en avant Emmanuel Macron, il y avait la définition qu'ils avaient retenue, c'était principalement des gens qui n'avaient pas de mandat. Et donc, toutes les personnes qui avaient pu avoir une expérience politique, qu'elle soit syndicale ou plus haut point, ou même collaborateur d'élus, n'étaient pas comptées là. Et donc, comme vous le disiez, il faut bien distinguer, quand on s'intéresse en fait à ce renouvellement, ce qui a trait de vrais novices, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas eu d'engagement politique, même pas eu d'expérience politique, et les personnes qui, eux, ont eu une expérience politique mais non rémunérée.
Et cela représente les personnes qui n'ont jamais été rémunérées en politique, cela représente malgré tout une assez grosse proportion des élus de 2017.
Oui, ça représente une proportion assez importante, et de ce point de vue-là, il s'est passé quelque chose qui est absolument indéniable. En 2017, La République En Marche a fait rentrer des personnes qui n'avaient non seulement pas été rémunérées en politique, mais même qui n'avaient pas eu d'expérience politique. Mmh. Ils en ont fait rentrer environ, selon mes calculs, 120. Mmh. 120, c'est énorme. On n'avait pas eu un tel niveau de personnes extérieures au champ politique depuis 50 ou 60 ans. Je pense que la dernière élection où on avait eu quelque chose, une telle effraction, en fait, de la société civile ou des novices dans le champ politique au niveau national, c'était 1958. Dans une élection qui était elle-même une élection très particulière.
Vous, Édouard Martin, pourquoi avez-vous choisi le Parlement européen plutôt que, par exemple, l'Assemblée nationale ? Pourquoi c'est là que vous avez eu envie de vous lancer en politique ?
Alors écoutez, c'est le hasard des calendriers.
Ça aurait pu être autre chose.
Hein. Je rappelle quand même que je suis pas non plus complètement dupe. Hein. C'est que le hasard des conflits sociaux a fait qu'on me propose d'être candidat aux élections européennes parce qu'il y a eu le conflit de Florange. C'est là où je me suis fait connaître médiatiquement. Hein, et moi, je ne suis pas rentré en politique par choix, même si j'en suis sorti par conviction, mais je ne suis pas rentré par choix. Et voilà, ça aurait pu être autre chose. Néanmoins, je dois quand même souligner que l'Europe, c'est quelque chose qui me passionne, même s'il y a beaucoup, il y aurait beaucoup à dire. Et lorsque le Parti socialiste est venu me contacter pour me proposer d'être tête de liste aux européennes en 2014, je peux vous assurer que la réponse d'abord a été non, parce que je savais très bien que derrière il y avait une espèce de, j'aime pas trop le terme là, mais j'en trouve pas d'autre là, instantanément, de manipulation. Mmh. C'est pas, Edouard Martin m'a proposé parce que j'étais médiatiquement connu, sinon jamais on serait venu me chercher. Et je savais bien que ils avaient essayé de faire un coup avec moi, entre guillemets. Et puis après débat, plusieurs jours, plusieurs semaines avec les copains, on s'est dit, parce que ça a été quand même une décision collective, on s'est dit, bah, s'ils veulent se servir de moi, profitons-en, on va se servir d'eux. Et puis si un ouvrier peut être élu député européen et essayer de mener le combat différemment, pourquoi pas. Mmh. Voilà pourquoi je me suis retrouvé en tête de liste.
Et en même temps, c'est étonnant parce qu'on peut se dire justement que quand on entre en politique, on le fait pour défendre des convictions. Et là, vous nous dites c'est parce qu'on est venu vous chercher. Et en plus, vous l'avez fait en rejoignant un camp, d'abord les socialistes, qui vous avaient déçu.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Hormis un parti de gauche, hein, je suis désolé pour les autres, je ne pense pas que j'aurais accepté. Mes idées sont de gauche, c'est un secret de polichinelle, mais c'est le seul parti qui est venu me chercher, néanmoins. Mmh. Et même si, effectivement, la décision de Jean-Marc Ayrault, que j'ai toujours à travers la gauche, m'a beaucoup déçu.
Par rapport au fourneau de Florange.
Par rapport au fourneau, et surtout par rapport, c'est là où la politique est parfois détestable. C'est lorsqu'il était candidat, il est venu nous voir pendant le conflit, il nous a signé un document où il s'engageait à ne pas fermer le haut fourneau s'il était Premier ministre. Il est Premier ministre, il ferme le haut fourneau. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Hein. Mmh. Et ça, on l'avait bien compris. Mais lorsque j'ai accepté la proposition du Parti socialiste, j'ai pas accepté le doigt sur la couture. Mmh. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et j'ai fini par leur dire OK, je veux bien partir avec vous, mais sachez que je ne suis pas encarté au parti, et j'ai pas l'intention d'y être. OK, pas de problème. Je veux garder ma liberté de parole. OK, pas de problème. Et je veux avoir ma liberté de vote. Et ça a été respecté, et chose que j'ai faite, puisque j'ai voté en mon âme et conscience, et je n'ai pas toujours respecté les consignes de vote du parti.
Dominique Régnier, vous, pourquoi vous vouliez faire de la politique, justement? Vous êtes politologue, vous connaissez ça évidemment très bien. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de passer de l'autre côté?
Alors, juste une petite remarque préalable. Faire de la politique, il y a deux façons d'en faire. Il y a une première façon qui est, comme tout à l'heure le disait Nicolas Hulot dans l'extrait que vous avez passé, il est devenu ministre, donc c'était visible qu'il était en politique. Ou bien vous présentez à une élection, et là, par définition, c'est visible, donc vous assumez. Mais l'autre façon de faire de la politique, c'est d'en faire sans être visible. Et ça, c'est pas le sujet de votre émission, mais c'est un aspect très important aussi. Hein. Beaucoup font de la politique sans se montrer faisant de la politique, y compris d'ailleurs beaucoup de mes collègues. Hein. Donc c'est les deux aspects qu'il faut distinguer. Et le fait de faire de la politique en s'engageant, c'est-à-dire vous êtes candidat, par exemple, vous avez une espèce de risque spécifique qui est lié à la visibilité. On espère d'ailleurs être le plus visible possible, logiquement, quand on veut être élu. Moi, ma motivation, elle était très simple, très claire. Je ne voulais pas faire de la politique au sens, par exemple, où on en fait lorsqu'on est un parlementaire. Et je ne dis pas ça de manière dépréciative. Hein. Simplement, ça ne me paraissait pas utile ou intéressant. Ce que j'avais très envie de faire, c'est d'avoir en charge une collectivité locale. Avoir une capacité à décider avec un collectif, à décider de d'actions qui ont des effets, on espère, positifs sur la vie des personnes qui peuplent ce territoire, qu'ils aient voté pour vous ou pas, évidemment. Et donc, c'est ça que je trouvais exaltant. D'ailleurs, quand je continue à trouver ça très remarquable, et j'ai beaucoup, moi, d'intérêt pour ce que font les élus locaux, y a là une dimension de gouvernement, si vous voulez, pratique, sans avoir les effets attaché au gouvernement national, c'est-à-dire une forme de gloire qu'on peut trouver excessive, de pardonner à la communication qu'on peut trouver trop importante, enfin toute cette espèce de jeu qui est très très narcissique, qui est peut-être nécessaire, hein, attaché au gouvernement national, que vous n'avez pas au niveau local, alors que vous avez toujours des responsabilités, plus modestes bien sûr, mais d'action, qui permettent d'agir, de faire.
Alors les parlementaires, justement, Étienne Ollion, vous travaillez dessus. Donc depuis 2017, vous menez des entretiens avec des députés novices. Dès 2019, début 2020, on a vu apparaître dans la presse des papiers sur ces députés fantômes. Certains de ces novices donc seraient devenus fantômes. C'est le Parisien qui les avait appelés comme ça. Des députés qui ne sont pas forcément partis, mais qui sont très en retrait, très peu impliqués, qui ne s'y retrouvent pas, en clair. C'est difficile à quantifier, mais qu'est-ce qui ressort de ces entretiens que vous menez? Qu'est-ce qui les fait déchanter, ceux qui déchantent?
Alors déjà, ce que je dirais, c'est que des députés fantômes, il y en a. Il y a des gens qui, en effet, ont été complètement en décrochage. Mais que même parmi les novices, il y en a beaucoup qui sont toujours très présents, très actifs. La différence, c'est peut-être qu'ils sont seulement désabusés. Mais je ne sais pas si on pourrait dire qu'ils sont complètement absents. Et ce serait même, en fait, leur faire offense. Mmh. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les entretiens, il y a des thèmes qui reviennent vraiment régulièrement sur la difficulté, en fait, du milieu dans lequel ils se sont plongés. Et un des thèmes était évoqué à l'instant par Dominique. C'est la question de la visibilité ou de la publicité. C'est-à-dire une des choses qui les a beaucoup surpris pour ces personnes qui n'avaient jamais eu d'existence autre que privée, locale, c'est que très rapidement ils se sont retrouvés plongés dans un bain médiatique, un bain politique, où ils ont eu une existence publique on pourrait appeler ça une espèce de masque ou de persona, et ils ont été obligés en fait avoir une existence sur les réseaux sociaux qui de prendre parfois de se faire insulter, de se faire alpaguer dans la rue. Et donc cette visibilité a été quelque chose qui les a beaucoup surpris. Quelque chose aussi qui les a beaucoup surpris, c'est le rapport au temps. Je crois qu'on le dit pas assez, mais le travail d'élu, que ce soit élu local ou élu national, mais d'une certaine manière, le parlementaire est aussi un élu local, c'est une activité extrêmement dilatée. Vous avez votre temps de travail à Paris, vous avez votre temps de travail en circonscription, et ça en fait infuse l'ensemble de votre vie. Le matin, le midi, le soir, le week-end, c'est quelque chose qui implique des modifications très forte dans l'emploi du temps, l'organisation. Vous ne pouvez pas simplement un vendredi soir dire c'est terminé, je pars en week-end, parce que vous avez tout le travail de représentation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été particulièrement fort en fait pour les novices. C'est à la fois l'intensité de l'engagement qui était demandé, c'est-à-dire le nombre d'heures, mais c'est aussi le caractère dilaté, le fait que ça remplisse tous les espaces du quotidien. Et ça les a plus surpris eux, parce que les autres finalement avaient été longuement habitués, de par leur attente, à se retrouver, à attendre justement.
Ça, Dominique Reynier, on a l'impression que les novices, ou en tout cas ceux qui n'étaient pas en politique précédemment, parlent plus volontiers de ces aspects-là, c'est-à-dire de ce que ça veut dire aussi, de ce que ça prend sur la vie privée, etc. Et en même temps, est-ce que c'est très bien de dire ça aussi quand on est élu, sachant par ailleurs qu'il y a beaucoup de Français qui ont des métiers beaucoup plus pénibles et beaucoup moins bien payés?
Ah oui, vous avez raison, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est particulier, hein. Bon, moi, je l'ai vécu, vous l'avez rappelé, le temps qu'a duré mon mandat, puisque vous avez rappelé que j'avais été invalidé. Mais malgré tout, il y a quelque chose... Alors, et puis, j'étais dans l'opposition. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition d'une assemblée élue, c'est une part vraiment... modeste, mais enfin bon, alors, président de groupe, ça prend un peu plus de temps.
Et vous avez vécu une campagne aussi quand même.
Oui, la campagne, ça c'était un an de campagne, donc ça c'était tout à fait clair comme expérience. Ce qui m'a frappé, moi, c'est vous avez bien sûr raison de dire ce que vous avez dit, mais quand vous n'êtes pas déjà élu, ce qui était mon cas, j'avais pas de mandat, vous avez faut faire le boulot et la campagne, parce qu'il faut gagner votre vie. Donc moi, je faisais les deux. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, ce qui m'a frappé, c'est la notion de temps plein qui a été évoquée, que je trouve très très juste au sens propre. C'est-à-dire que il n'y a pas d'espace pour autre chose. Il ne reste rien. Par exemple, on ne tolère pas que vous ne donniez pas votre numéro de portable. Il faut le donner à tout le monde. Il faut qu'on puisse vous contacter, vous téléphoner. C'est très bizarre comme situation, parce que c'est pas humainement possible. Mais cependant, on peut pas ne pas donner son téléphone portable. On peut en avoir deux. C'est souvent recommandé pour les comptes de campagne. Mais il y en a un que vous devez donner à tout le monde. Et là, vous êtes donc assailli de la même façon que si vous faites campagne, je dis ça un peu dans le désordre, pardonnez-moi, mais ce sont des souvenirs aussi, mais si vous faites campagne, dans une région comme la mienne, avec ses 13 départements, quand vous arrivez quelque part pour faire campagne, si vous n'avez pas préalablement téléphoné aux élus locaux qui sont de la sensibilité qui vous a investi, ça crée un incident. Donc vous devez passer beaucoup de temps à téléphoner à des élus locaux pour leur dire que vous êtes de passage ou que vous allez passer, même si vous ne les voyez pas entre ça et les interlocuteurs que vous avez dans le monde professionnel, les syndicats, les chercheurs, les entrepreneurs, etc., les organisations diverses et variées. Donc c'est un temps plein, mais alors au sens propre, il n'y a pas du tout d'espace pour faire autre chose que campagne, en tout cas, pendant l'année où j'ai fait campagne. Et c'était manifestement très prenant aussi à la suite pour le conseil régional.
Édouard Martin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces considérations-là, vous qui avez travaillé dans la sidérurgie, ce que ça veut dire, de ce que ça prend sur la pénibilité du travail, etc., d'élu?
Oui, non, mais c'est sans commune mesure, évidemment, mais néanmoins, pour avoir fait les deux, c'est vrai que quand vous êtes à l'usine, même si le travail est difficile, une fois que vous avez fait vos 8 heures de travail, vous rentrez à la maison, vous laissez vos problèmes au vestiaire, si j'ai envie de dire, et vous pouvez commencer une vie différente avec votre famille. Lorsque vous êtes élu à plein temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je m'en plains pas, puisque j'ai eu des responsabilités syndicales, je dis pas que c'était du même acabit, mais pas loin. Et donc, le fait d'être tout le temps par mot et par vos, d'avoir des journées à rallonge entre 12 et 15 heures par jour, samedi compris, j'essaie de me préserver le dimanche parce qu'il faut quand même un petit peu passer de temps avec la famille. Mais voilà, c'est des choses plaisantes, même s'il est évident que c'est plutôt votre famille qui en pâtit. Parce que moi, entre guillemets, passez-moi l'expression, je prenais mon pied, j'ai toujours aimé ça et j'aime toujours ça. D'aller au contact des gens, aller débattre, discuter, aller les écouter, parce que je trouve toujours que le rôle premier d'un élu, c'est d'être sur le terrain et d'expliquer ses votes, d'expliquer ce qu'il fait, et surtout d'entendre les personnes de la circonscription. Et ça prend un temps fou. Surtout que moi, j'étais député européen à l'époque, c'était la grande région, c'est 26 départements, 8 millions d'habitants. Il y a quasiment 600 kilomètres d'un bout à l'autre de la circonscription. Et je m'étais donné comme consigne, que j'ai respecté d'ailleurs à la lettre, c'est de venir au moins tous les mois dans chaque, pas tous les mois, mais au moins une fois par an dans chaque département, faire des réunions publiques pour, expliquer ce que je faisais et surtout écouter les doléances et les critiques même des associations, des élus locaux, des ONG, etc. Et c'est vrai que c'est prenant, mais voilà, comme vous dites, on va pas se plaindre. En plus, on est plutôt bien payé. Mais il est vrai que lorsque vous acceptez ce mandat-là, il faut avoir en conscience que votre famille, vos amis, vous les mettez de côté pendant un temps.
Peut-on survivre en politique sans être un politique? Vous écoutez France Culture, 18h44.
Donc vous êtes la philosophe.
Je sais pas, enfin, non, je suis pas du tout philosophe.
Ah d'accord, vous êtes pas philosophe?
Je suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à l'étranger, notamment. Enfin, j'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques.
Non, vous vous y connaissez un peu, alors?
Oui, c'est ça. Un petit peu.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord? J'arrive plus à penser. Plus du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Non, pas vraiment.
Vous connaissez mon parcours?
Je sais que vous êtes un homme politique, vous êtes socialiste, vous êtes le maire de Lyon.
Oui, voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier.
France Culture.
J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales, j'ai travaillé dans des ministères, J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil.
Le temps du débat.
J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections, j'ai mené des équipes, j'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées.
Chloé Cambrelin.
Enfin, ça s'est pas passé comme ça, hein, exactement, mais enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Extrait du film Alice le maire avec Fabrice Lucchini et Anaïs de Boustier. Oui, les idées, ce qu'on en a plus quand on est dehors ou dedans. On l'a dit, Dominique Reynier, l'étiquette société civile, elle est souvent mise en avant parce que les politiques ont une image très dégradée. Mais le risque, c'est aussi que l'attrait de la nouveauté peut très vite se transformer en accusation d'amateurisme. Parce que là, on le voit, spécialement en temps de crise, l'expérience rassure beaucoup.
Oui, vous avez raison. Oui, enfin c'est le revers hein, de la médaille. Tout à l'heure, Étienne Olioux signalait la nouveauté historique de l'Assemblée de 2017. Alors c'est toujours un peu contradictoire parce qu'on a pu railler l'amateurisme, mais quand on avait auparavant raillé la professionnalisation, voilà, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre. Il me semble quand même que le risque de l'amateurisme, si je puis dire. N'est pas sans être rémunéré en quelque sorte du point de vue démocratique parce que cela permet d'avoir des discussions, des options, des idées aussi qui sont désencastrées en fait de la politique comme profession. Je dis pas que c'est pas nécessaire la politique comme profession, je pense que pour une partie c'est inévitable et systémique. Mais enfin, ça a des effets pervers qui sont extrêmement dommageables parce que ça ossifie, ça rigidifie. Or, nous sommes dans des sociétés qui changent de manière très rapide. Et là, c'est peut-être la différence entre les phases historiques de routinisation et les phases historiques de rupture. On est dans une phase historique de rupture. Il serait peut-être plus logique, plus cohérent d'avoir dans une phase de rupture des élites politiques et des élus politiques et sociaux d'ailleurs, qui sont en prise ou qui étaient récemment en prise avec une manière de vivre, une manière de faire que ne connaissent pas par définition ceux qui sont élus depuis longtemps. Même les élus locaux, moi j'étais frappé par ça. Les élus locaux, vous avez des apparatchiks élus depuis très longtemps et ils ont beau être élus locaux, ils vivent une vie depuis trop longtemps très singulière que ne vivent pas leurs concitoyens.
Étienne Olioux, là-dessus, sur le côté aussi amateur, qui est aussi une accusation qui est faite très régulièrement aux personnes qui ne sont pas issues de la politique.
Oui, on l'a beaucoup entendu. Hein, les journalistes parlementaires s'amusaient beaucoup avec d'autres personnes à l'Assemblée à remarquer les bourdes, en fait, hein, que faisaient les novices. C'est un thème qu'on a beaucoup entendu. Bah, écoutez, c'est certain qu'avoir une expérience en politique, ça forme et ça conforme. Hein, ça fait qu'on apprend des choses et qu'on est plus efficace. Et en même temps, ça fait que peut-être on restreint un petit peu le spectre des possibles à l'intérieur duquel on peut penser. C'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment clairement en tête quand on pense à ces questions-là, parce que ça veut dire aussi que quand on fait arriver des novices, et les quelques travaux qui sont menés sur le sujet, et ceux que je suis en train de mener en ce moment, montrent qu'on produit souvent une bascule du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à donner le pouvoir un petit peu plus à l'exécutif. C'est ce qu'on a vu dans certaines assemblées aux États-Unis où on avait introduit une limite du nombre de mandats et où en fait le pouvoir s'est basculé vers le gouverneur, l'exécutif, quand on enlève de l'expérience au législatif. Donc il faut toujours peser le pour et le contre, et puis il faut aussi peut-être se poser la question du système en fait et de l'organisation qui permettrait à ces novices de ne pas perdre le pouvoir. Donc il ne faut pas simplement se dire peut-être qu'il faut changer les visages, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à l'organisation un peu plus systémique de la vie politique.
Et oui, et alors justement, et c'est là qu'interviennent les partis, on en a déjà un peu parlé, mais Édouard Martin comme Dominique Reynier, il y a un point commun dans vos expériences en politique qui est intéressant, je trouve, c'est que dans les deux cas, c'est presque dans ce qui était votre camp que ça a été le plus compliqué. Ça veut dire aussi justement quelque chose sur la capacité qu'ont les partis, les formations à évoluer sur ces questions. Édouard Martin, d'abord sur les difficultés que vous avez pu rencontrer, voilà, dans ce qui était normalement votre camp.
Oui, alors, au préalable, je voudrais quand même souligner qu'effectivement l'amateurisme, moi j'étais entre guillemets un amateur politique, je suis arrivé au Parlement européen, bilan 5 ans après, j'ai pas du tout l'impression, je dirais même le contraire, d'avoir été un mauvais élu, je dirais même le contraire. Et y avait avec moi des élus français, et pas les moindres, certains anciens ministres, etc. Et je peux vous dire qu'à côté de moi, c'était des cancres. Il faut savoir, on y va pour quoi et pour qui surtout. Hein. Et je pense que certains, ils savaient même pas pourquoi ils étaient là. Enfin, ils savaient pour qui, mais ils savaient pas pourquoi. Bon, ça c'est la parenthèse est fermée et j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait. Je pense d'avoir fait le boulot. Alors bien ou mal, ça après chacun pourra juger et juger en fonction de ses idées politiques. Mais j'ai été présent à 100% de mon temps parce que moi dans ma tête, il était hors de question que je sois payé à ne pas être présent là où je devais être. Alors que certains professionnels de la politique oubliaient souvent de venir. Ça, c'est pour la parenthèse. Sur le reste, effectivement, vous arrivez à une table à laquelle vous n'avez pas été invité. Et donc, même si l'appareil a voulu qu'Edouard Martin soit candidat aux élections, pour des raisons que j'ai déjà expliquées au préalable, mais le reste, les autres élus, professionnels ou en tout cas du parti, ben, ils ne s'attendaient pas à voir débarquer un novice, un gars qui n'était pas du rang, quelqu'un qui n'était pas qui n'avait pas sa carte, qui n'avait pas milité avec eux, puis tout d'un coup, voilà, c'est quoi cette légitimité? Est-ce qu'il est légitime à être candidat sur notre liste? Et donc, vous devez d'abord essayer d'expliquer que vous n'êtes pas là parce que vous avez milité X années chez eux ou pas, mais vous êtes là pour défendre des idées, des idéaux. Mais c'est pas facile parce que l'emprise du parti l'emporte bien souvent sur le reste et parfois, j'allais dire souvent, non quand même pas, mais parfois les intérêts du parti sont pas forcément les mêmes que l'intérêt général et ça, eh ben ça crée des tensions forcément. Donc moi j'ai dû effectivement démontrer tout au long de mon mandat que voilà, je n'avais volé la place de personne et que j'étais légitime à être là.
Dominique Régnier là-dessus.
Justement, je me disais en écoutant Edouard Martin qu'on n'avait pas la même position parce qu'Edouard Martin a une expérience de importante de syndicaliste. Donc chacun imagine aussi que c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Edouard Martin a fait de la mobilisation collective, de la négociation, de la discussion, des confrontations. Oui. Enfin, c'est une énorme expérience qui est un apport que je suis sûr de grande valeur pour une organisation politique ensuite. Hein. Moi j'étais juste politologue, donc si j'avais pas gagné la primaire, j'aurais jamais été candidat. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que les partis, les partis que vous avez listés, et principalement les LR, bien sûr, les partis ont exprimé, pour être juste, j'ai eu des soutiens parmi des élus. Et j'ai eu beaucoup d'hostilité. Il y a eu les deux, bien sûr. L'hostilité a été très forte, puisque vous l'avez dit, c'est l'un des élus du parti qui m'a investi, qui m'a fait invalider. Donc ça va jusque-là. Mais ce qui m'a frappé, c'est la crainte que j'ai ressentie, qu'il ressentait, de voir le jeu politique s'ouvrir d'une façon incontrôlée, avec des personnes qui déboulent, dans mon cas, qui n'étaient pas adhérents, qui n'avaient pas de mandat jusque-là, et comme si, au fond, on me disait, mais vous vous rendez compte, si on ouvre comme ça les portes, alors que les ressources sont déjà si rares, notre plan, et pardonnez-moi de le dire, ça paraît péjoratif, mais c'est comme ça que les choses étaient pensées, notre plan de carrière électorale risque d'être interrompu plutôt que prévu, c'est inacceptable. Donc non seulement il faut vous barrer la route, mais le faire de façon suffisamment spectaculaire pour que ça dissuade d'autres personnes de venir dans un espace qui n'est pas aussi ouvert que vous avez semblé le croire. Je crois que c'était... Moi, j'ai ressenti ça très fortement. Et ça m'a frappé de voir ensuite 2016-2017, c'est-à-dire les primaires qui ont dégagé tous les ténors à droite comme à gauche. Et puis finalement, 2017, où on a au second tour... un hors-système contre une anti-système. Ça, c'est le résultat d'organisations politiques, je parle plutôt de la droite ici, hein, qui ont refusé, mais je crois que c'était pareil à gauche, qui ont refusé de comprendre que l'époque appelée un renouvellement qu'elles auraient dû piloter, mener, organiser, penser, qui s'y sont résolus, mais vraiment très difficilement, et qui finalement n'ont pas pu... empêcher que tout soit emporté.
Étienne Auillon, qu'est-ce qu'on fait alors pour changer l'organisation de la politique? C'est quoi? C'est la proportionnelle, la clé? On en entend parler depuis des années, mais...
Alors, on a tout un tas de leviers sur lesquels on peut agir. En effet, un levier, c'est d'agir au niveau des modes de scrutin. Et donc, la proportionnelle que vous évoquiez permettrait assez facilement d'ouvrir le jeu politique. En tout cas, ça ne permettrait pas aux partis politiques de se cacher derrière leur petit doigt en disant c'est les électeurs qui ont choisi telle ou telle personne, comme dans le scrutin uninominal. Si on met pas de femmes sur les listes, si on met pas de personnes racisées, si on met pas de personnes qui viennent de telle ou telle région, ça se verra tout de suite. Donc ça, c'est une possibilité. Mais je pense que le spectre des possibilités, il est finalement beaucoup plus large, parce que on a parlé de toute une série de choses ici qui sont qui embrassent beaucoup plus largement. On pourrait avoir, par exemple, une possibilité d'ouvrir l'espace politique en étant plus intéressé, enfin, en laissant plus de place à d'autres personnes. Et je pense que je dis ça en pensant nous-mêmes à ce qu'on fait, en fait. Nous, c'est nous les commentateurs, nous les journalistes. Moi, une des choses que m'ont dit les parlementaires LREM, les novices, c'est qu'ils ont été particulièrement secoués de l'interaction qu'ils ont pu avoir avec les journalistes politiques qui en permanence, en fait, leur demandaient de parler politique, qui était une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, au-delà même de l'organisation politique, c'est aussi la manière dont les citoyens, Dominique Régnier le disait tout à l'heure, ce que les citoyens attendent, en fait, de leurs élus, et qui fait que c'est un métier qui est un métier vraiment pas comme les autres, en fait. Donc, il y a toute une série de changements qu'on pourrait faire, et changer les horaires, par exemple, le mode de vie, l'organisation, pour que ce soit un métier qui soit plus ouvert aux femmes aussi. On sait que les femmes ont plus souvent la charge des enfants. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit plus ouvert en se fixant des horaires et un cadre un petit peu plus normal.
Édouard Martin, aujourd'hui, vous avez donc une association. Vous dites que vous pouvez continuer à y faire vivre, à y défendre vos idées. En revanche, on peut le dire aussi, vous êtes en recherche d'emploi. Vous ne vous êtes pas représenté parce que vous aviez dit que vous feriez un seul mandat. Mais est-ce que vous regrettez pas, finalement, puisque vous nous dites que ça s'est bien passé, que vous pouviez défendre vos idées, pourquoi ne pas avoir continué au Parlement européen ?
Non, parce que déjà, vous avez raison de le dire, et j'ai dit dès le départ, j'étais parti pour faire un seul mandat, parce que je veux rester en accord avec moi-même, c'est-à-dire que je pense que la politique ne devrait pas être un métier, une profession, même si effectivement il faut de l'expérience. Mais vous savez, si c'était que ça, ça saurait, regardez, tous ceux qui ont l'expérience depuis 50 ans, dans quel état ils nous ont mis. Donc, vous voyez que ça compte pas toujours. Enfin, je veux dire, il faut surtout de la bonne volonté. Il faut surtout avoir l'envie d'apprendre, l'envie de se donner à fond. Je pense qu'on peut me faire beaucoup de critiques, mais pas celle-ci. Donc, un seul mandat pour cela. Et puis, quand bien même j'aurais pu, hein, franchement, dans mon intérêt et mon confort personnel, je pouvais repartir. Est-ce que j'aurais été élu? Je n'en sais rien. Peut-être. Et là, j'étais entre guillemets tranquille, je faisais le joint avec l'âge de la retraite et voilà, entre guillemets, si je pensais qu'à moi, mon avenir était complètement assuré, alors que ça fait 18 mois que je galère, je suis au chômage. Et effectivement, l'association, il faut le dire, hein, c'est une association qui a aucun moyen, on a zéro euro de budget, hein, c'est une association de bénévoles à but non lucratif, c'est pour essayer de continuer à défendre nos idées, c'est-à-dire avoir une industrie propre en Europe, faire en sorte qu'on ne soit pas concurrencé par des entreprises qui ne respectent pas les mêmes clauses que nous. Mais voilà, ça a été d'abord un choix de dire non, je ne peux pas dire moi, et je ne peux pas, c'est pas uniquement le dire, parce que ça, vous savez, dire et se dédire, j'ai envie de dire, c'est la vie de tous les jours. Mais au plus profond de moi-même, je me disais, voilà, 5 ans, parce que certains me disaient, mais 5 ans, c'est court, tu vas commencer des choses dans le premier mandat, que tu n'auras pas le temps de finir, ça serait bien que tu fasses un deuxième mandat pour le finir. Oui, tu as raison, puis après, je vais commencer des choses dans le deuxième mandat, je n'aurai pas le temps de finir, et puis là, il faudra que j'en fasse un troisième. C'est comme ça que j'ai croisé des élus qui sont là depuis 35, 40 ans, quand ils marchent dans les couloirs du Parlement européen, ils sont en lévitation, les pieds ne touchent plus le sol, et ils se demandent même parfois ce qu'ils font là. Donc, c'est ce que je ne veux pas.
On va terminer juste avec vous, Dominique Régnier. En 15 secondes, vous disiez en septembre 2017, si le renouvellement promis échoue, un retour de bâton est fort possible. Est-ce que vous considérez qu'on est plus près de l'échec ou de la réussite, là, très rapidement ?
Il y a plein d'éléments qui sont entrés en jeu depuis. Moi, je suis très préoccupé par la situation de notre démocratie et l'idée que, après avoir dégagé les sortants, la déception déboucherait sur l'idée de dégager le système. Donc ça, c'est un peu ce qui viendrait après cette déception, si elle avait lieu.
Merci, merci beaucoup à tous les trois, Dominique Régnier, Édouard Martin, et merci à vous également, Étienne Ollion. C'était Le Temps du Débat, Bruno Barada, Fanny Richer, Hugo Boursier, Rémi Bailly-Imane Gilles et Louise André. À la technique ce soir, Alexandre Dang, à la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, à 18h20, nous débattrons de la stratégie vaccinale de la France. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles avec l'actrice, chanteuse, metteuse en scène, Emeline Bayard.